RFI. Le Monde à midi.
Bonjour Anton Arjakovski.
Bonjour.
Vous êtes historien, auteur d'une vingtaine d'ouvrages, dont « Qu'est-ce que la science morale et politique ?» qui a été publié aux éditions du Cerf. On va parler avec vous de ce moment majeur en Russie, les commémorations du 9 mai, qui marquent dans le pays la fin de la Seconde Guerre mondiale. Un défilé militaire a eu lieu tout à l'heure en présence d'invités de marque, une vingtaine de chefs d'État et de gouvernement. Cette cérémonie, elle avait une ampleur inédite. Vladimir Poutine a besoin, là, d'un nouvel élan patriotique en ce moment ?
Écoutez, si je peux me permettre, moi je conteste ce qu'on dit depuis ce matin sur l'ampleur de cette cérémonie, parce que je suis historien, je regarde sur le temps long et je constate que la dernière fois que Vladimir Poutine a voulu marquer le coup sur l'anniversaire du 9 mai, c'était pour le 60e anniversaire. Et là, il y avait une cinquantaine d'États qui étaient représentés sur la place rouge. Aujourd'hui, on a 24 pays représentés. Et bon, à part la Chine et le Brésil, bien sûr, on a l'Ouzbékistan, le Vietnam, le Myanmar. Je dis pas que c'est pas important, mais sur le plan militaire, c'est pas aussi impressionnant qu'il y a 20 ans. Donc ça, c'est le premier point. Quant à la démonstration de force, là aussi, je suis un peu critique parce que, en réalité, oui, il y a Xi Jinping sur la place rouge, mais c'est une forme de vassalisation, en réalité, de Poutine. Poutine montre qu'il dépend de plus en plus de la Chine en termes de ses exportations, de soutien à son économie. C'est pour ça qu'il a signé ce traité déjà en 2022, qui a été repris par un texte commun hier. Donc voilà, ça c'est la marque, en tout cas pour les Russes et pour beaucoup d'Européens de l'Est que je rencontre, que Poutine ne parvient pas à briser en réalité son isolement et dépend de plus en plus de la Chine. Et en plus, sa propagande marche de moins en moins, c'est-à-dire qu'il, lui, il a quatre messages pour la propagande du 9 mai, c'est de dire que la Russie est la victime de la Deuxième Guerre mondiale, ce qui est complètement faux, puisqu'on sait que c'est bien Staline qui, à travers le pacte Molotov-Ribbentrop, a signé les accords du 23 août 1939 et qui a donc déclenché la guerre en Europe. Ensuite, il explique qu'il est le seul pays victorieux de cette Deuxième Guerre mondiale, ce qui là encore est faux, parce que les Ukrainiens, eux, ils ont perdu 8 millions de civils et de soldats pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et donc, personne ne peut cacher le fait que les Ukrainiens ont été actifs et partie prenante de la victoire lors de la Deuxième Guerre mondiale. Quant à son troisième message pour dire que le combat se poursuit aujourd'hui contre l'Ukraine. Personne au monde, et même pas les Chinois, ne peuvent croire que les Ukrainiens sont des nazis, alors qu'on sait tout ce qu'on sait sur Zelensky, sur l'Ukraine et sur ce pays qui défend l'état de droit et la démocratie. Donc oui, ils cherchent à mettre de l'ampleur. Il y a une vraie opération de communication, de propagande, mais je pense qu'en Occident, on est mieux armé maintenant pour résister par rapport à ce type de propagande.
Ce message, ça s'est vu notamment parce que les médias russes ont beaucoup, beaucoup insisté sur le nombre de dirigeants étrangers qui sont présents aujourd'hui, donc une vingtaine. Aucun représentant européen, sauf un, le Premier ministre slovaque. C'est important pour Vladimir Poutine d'afficher une prise européenne, entre guillemets ?
Bien sûr. Ça montre d'abord que Fico, le Premier ministre slovaque, est dans la main de Vladimir Poutine pour des questions, je pense, plus économiques, de dépendance énergétique de la Slovaquie à l'égard de la Russie que pour des raisons véritablement idéologique. Et je pense que, et pour Fico, et pour le président serbe Vučić, c'est la fin de leur réputation au niveau européen. Je crois que les Serbes vont avoir du mal à convaincre à nouveau Bruxelles qu'ils veulent intégrer l'Union européenne. Quant à Fico, il va être de plus en plus marginalisé par les Européens qui, eux, de leur côté, font une démonstration de force. Que ce soit le Parlement européen qui a voté une résolution.
La différence entre les deux, c'est quand même que la Slovaquie fait partie de l'Union européenne déjà.
La Slovaquie fait partie de l'Union européenne et encore une fois, c'est une prise, je suis bien d'accord avec vous, de la part de Poutine, une tentative de diviser l'Europe. Mais ça ne marche pas parce que aujourd'hui, pour moi, le principal événement, c'est pas ce qui se passe à Moscou, c'est ce qui se passe à Lviv. À Lviv, les ministres des Affaires étrangères européens se sont réunis ce matin pour honorer d'abord les morts de la Deuxième Guerre mondiale en Ukraine, et ensuite pour annoncer la création d'un tribunal par l'intermédiaire du Conseil de l'Europe pour le crime d'agression de Poutine contre l'Ukraine. Et donc ça devient concret et ça devient extrêmement sérieux, cette solidarité européenne. Et je vous passe toutes les déclarations sur les pays, la coalition des pays volontaires qui disent que maintenant le cessez-le-feu il doit être sécurisé par les 10 pays qui sont déjà engagés, ou encore sur la déclaration hier de Trump après son coup de fil avec Zelensky qui soutient le cessez-le-feu de 30 jours en Ukraine, ce qui montre que l'opération qu'avait tenté Poutine de diviser les Américains et les Européens n'a pas marché.
Alors il y a quand même eu quelque chose de notable puisque vous mentionnez Donald Trump. Là, dans la courte allocution qu'a prononcée Vladimir Poutine ce matin, les observateurs de la Russie ont signifié qu'il avait été quand même un peu moins dur que les années précédentes envers les Occidentaux. Il faut y voir là une relation avec ce qui a été mis en branle par Donald Trump et la Russie.
Alors oui, moi j'ai pas vu ce message-là. Il faudrait que je réécoute ce discours. Moi, ce que je vois, c'est qu'il s'affiche avec Pékin, donc contre les États-Unis et donc contre l'Europe.
Il a salué tout à l'heure l'ouverture d'un deuxième front en Europe au moment de la Seconde Guerre mondiale et salué la lutte commune avec des troupes armées alliées.
Oui, mais ça, on le savait déjà. Il est même venu en 2014, je crois, en France pour l'anniversaire du débarquement. Et c'est quelque chose, si vous voulez, il est allé moins loin que Khrushchev, par exemple, qui disait que sans les États-Unis, l'Union soviétique n'aurait jamais gagné la Deuxième Guerre mondiale. Donc voilà, il essaye de garder, bien entendu, un fer au feu, mais c'est quand même un échec. Il a pas avancé d'un millimètre dans la coopération avec les États-Unis, malgré le fait que Trump déroulait un tapis rouge pour remettre la Russie au centre des relations diplomatiques et pour, en gros, donner tout ce que la Russie demandait pour mettre fin à la guerre. Ça, il n'en a pas voulu, mais je pense que cette radicalisation va jouer contre lui, parce que en fait, c'est comme si la Russie aujourd'hui craignait la paix. L'économie de guerre ne fonctionne que sur la production des chars et des avions. Et si demain y avait un cessez-le-feu, tout ça devrait s'arrêter et l'économie russe serait complètement à l'arrêt. Et en plus, les soldats et les familles de soldats décédés, et on sait qu'il y en a plusieurs centaines de milliers, témoigneraient de leur mécontentement. Donc en fait, il y a une sorte d'engrenage qui fait que Poutine, là, est pris dans une logique de guerre. Et même si les Américains cherchent à lui tendre la main...
Donc là, actuelle, et on le voit bien, ce qui a été mis en place jusqu'à présent n'aboutit pas. Dernière question, Antonin Arjakovski. Parmi les dirigeants qui sont présents aujourd'hui à Moscou, il y a le Brésilien Lula. Est-ce qu'il est en Russie parce qu'il partage des vues avec Vladimir Poutine ou parce qu'il veut afficher une sorte d'indépendance vis-à-vis de l'Occident et des États-Unis ?
Lula, c'est, si je peux me permettre, un peu comme le pape François, c'est-à-dire de ces gens d'Amérique latine et d'Amérique du Sud qui considèrent que le principal danger, c'est quand même les États-Unis. Et donc, voilà, il essaye de parler avec la Russie en pensant que ça ne l'implique pas. Alors qu'en réalité, lui aussi, tout comme Fico et Vucic, il va être marqué au fer rouge d'avoir... participer à un événement de type militaire, même si ça n'est qu'une parade, avec un pays dont le tribunal qui est lancé aujourd'hui par le Conseil de l'Europe va montrer qu'il est responsable de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité et même pour certains de génocide. Donc pour Lula, de s'afficher auprès de Poutine, c'est au minimum de la naïveté et je ne pense pas qu'il en tire beaucoup. Les BRICS n'ont toujours pas de convergence.
Donc pas forcément davantage pour le dirigeant brésilien. Je vous remercie beaucoup Antoine Arjakovski d'avoir été en ligne avec nous. Historien, je redonne le titre d'un de vos nombreux ouvrages, « Qu'est-ce que la science morale et politique ?» qui a été publié aux éditions du CERF. Merci d'avoir été en ligne avec nous.
Merci.